6 ans dans mon bureau, enfin, dans le bureau de Laurence Bloch, la directrice de France Inter.
Laurence, on est là.
On est viré, c'est ça. Je vais me mettre en grève tout de suite, alors.
Mais calmez-vous, mais pas du tout. Casse-pieds. Je vous emmure tous les trois pour vous occuper d'un... bébé.
Non.
Moi, je vous... Écoutez, on discute pas. Je vous confie le 17h de France Inter. Une quotidienne, vous vous débrouillez. Moi, je suis sûre que les auditeurs vont adorer l'idée. Trois branquignoles et un programme radio, non?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant?
On n'est pas prêts. On commencerait pas par une grève?
Un an plus tard.
Moi, je l'aime bien quand même, finalement, notre bébé.
Il a un peu notre image, un peu rigolo, un peu politique,
un peu bancal. Hein,
voilà, il est pas bien élevé, mais il est attendrissant. Voilà.
J'espère que Laurence va pas nous le reprendre tout de suite.
Oh, non. 25 août 2019, à la veille de la rentrée, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, alors toi, Guillaume, alors c'est comme l'année dernière, si je comprends bien. Je veux dire, tu t'en occupes pas le vendredi. Bah voilà, non, maintenant, oui, Alex, tes jours de garde, on a dit quoi? Mardi, jeudi, vendredi,
oui,
c'est ça.
C'est pas aussi clair que ça.
Mais comment veux-tu que l'enfant, il ait des repères après?
Oui, bah, il est grand, il a 6 ans le bébé maintenant.
D'accord, et comme d'habitude, je garde la boutique tous les jours, alors c'est ça?
C'était la mère.
La mère, hein, donc.
Ce matin, 9h, au-dessus du berceau de l'émission.
Pour ce 11 novembre, mon Par Jupiter. On décore ta chambre de sujets super. On va changer le monde, il sera plus beau. Grâce à la faconde de Colline Serrault.
Mon Dieu, je suis pas sûre que j'ai bien fait il y a 6 ans quand même.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. On ne peut pas avoir l'Uber et l'argent d'Uber, à moins d'en être le patron. Voici le menu. La sortie de J'accuse de Roman Polanski a poussé une femme à apporter un nouveau témoignage de viol à l'encontre du réalisateur. Pour éviter d'être confronté à cette question, le premier rôle du film, Jean Dujardin, s'est désisté auprès du 20h de TF1.
On est quand même dans un monde où quand on fait des vannes sur un réalisateur accusé de viol, on doit préciser lequel.
Les tournages de cinéma polluent énormément. Un nouveau métier tente d'y remédier, le chargé d'éco-production. Chasse le plastique, optimise l'éclairage et recycle les décors.
Quelqu'un veut un baby bow?
Ouais, merci.
Vous jetez pas les corses, j'en fais des bougies.
La France est le premier pays au monde à créer un diplôme de magicien niveau Bac plus 2. Un diplôme d'État avec une école reconnue et subventionnée. Demain, les magiciens pourront sortir un diplôme de leur chapeau.
C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants.
Et voici celui qui, comme nous, laisse libre cours à l'interprétation de l'actualité. Voici Alex Vizorek.
C'est lui-même. Bonjour, Charline Ballou-Lacquer.
Bac plus 2, en blague ou
en bref.
Autour de la table, une belle équipe à 17h20. Celui qui était comme un fou samedi soir devant les Energy Music Awards. Il a eu la larme à l'œil quand notre nouvel ami M. Pokora a obtenu le prix du meilleur artiste francophone. Vous êtes un tendre, Djoubaka. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
D'un futur tube interplanétaire, je pense, vraiment.
Ouh là là, si c'est vous qui le dites, on est tranquille. À 17h30, pas d'armistice pour lui. Il ne posera pas son arme. Même un 11 novembre, il porte le micro dans la plaie. Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous, c'est lundi et lundi. C'est Balkany, bien évidemment. J'ai retourné à Levallois pour parler de la cagnotte à patoche et de tous ceux qui lui veulent du mal, notamment.
Ces salopards de communistes.
Oui, on est bien à Levallois.
Et bien évidemment, et à 17h40, le plus grand acteur de l'histoire du cinéma français n'était pas disponible. Nous aurons donc Hippolyte Girardot. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
J'ai reçu une lettre d'un pays qui n'existe pas.
Oh, très bien.
Je vais la lire.
Et voici celle qui passe sa vie à changer le monde et qui va encore continuer au moins pendant une heure avec nous. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Colline Serrault.
Mais non, oui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Bonjour Colline Serrault.
Bonjour Charline.
Nous sommes ensemble pendant une heure en direct, en ce 11 novembre. Vous publiez un livre intitulé « Hashtag Colline Serrault ». Avec un vrai hashtag dessus.
Je peux publier... dire dièse aussi. Hein.
Ah oui, mot-clé, mot dièse, effectivement. Je peux publier chez
dièse,
Actes
c'est musical, c'est pour ça.
Vous préférez dire comme ça?
Non, hashtag c'est bien.
Hashtag c'est bien. C'est à la fois vos mémoires, votre réflexion, des extraits aussi de textes, de scènes cultes de vos films. Chez vous, on a bien compris que les mémoires, les souvenirs et la réflexion, l'un n'allait pas sans l'autre. Ça peut pas être indissociable. Vous n'alliez pas faire un livre que de mémoire. Il fallait la réflexion aussi.
Oui, c'est bien parce qu'Actes Sud, ils sont relativement ouverts. Ils ont accepté de publier cet OVNI qui est ni un roman, ni une autobiographie, ni.
Non, c'est un
truc libre. C'est ça qui est.
Exercice libre, on va dire.
Exercice libre et qui est normalement, ça devrait être intéressant, normalement.
Ça l'est, ça se complète, en tout cas, on comprend bien.
C'est un peu ennuyeux, espérons.
Ça ne l'est pas du tout ennuyeux. Et donc, vous avez choisi à la fois de partager vos réflexions, de parler de ceux qui vous ont précédé, comme vous dites. Vous avez grandi notamment pendant vos 5 premières années dans un environnement peu commun et passionnant. Ça fait partie du premier gros chapitre du livre. 3 femmes, dont votre tante et votre marraine, ont fondé l'école de Beauvallon dans la Drôme, sur base d'une pédagogie différenciée, étudiée à Genève notamment, et tout cela au milieu de la nature. Ça, c'est vraiment fondateur dans votre manière d'aborder la réflexion sur la société, le monde, parce que c'est de 0 à 5 ans. Est-ce que ça vous a marqué, en plus de tous ceux qui vous ont apporté des choses ?
Oui, pas que de 0 à 5 ans, parce qu'après, j'ai passé au moins 3 mois par an, sinon 4. Et c'était, c'est-à-dire qu'elles étaient tellement en avance sur tout que elles étaient en avance sur la médecine, sur la manière d'appréhender le rapport à la nature et l'écologie. Elles étaient en avance sur les méthodes d'éducation, bien sûr. Et politiquement, ça a été des femmes, elles sont toutes les 3 au Panthéon. Elles étaient juste parmi les nations. Elles ont énormément sauvé de juifs. Mmh. Et puis ensuite, elles ont continué à se bagarrer pour plein de choses. Donc, et mes parents aussi. Donc, oui, je peux dire que si j'ai eu une réflexion sur le monde, c'est vraiment grâce aux gens qui m'ont précédée et qui m'ont élevée.
Mmh. Alors, parmi eux, bien sûr, vos parents qui étaient de tous les combats, et votre maman particulièrement aussi. Alors, il y a l'Algérie, les républicains espagnols, le Vietnam, le féminisme. Des tas de gens défilaient à la maison, certains étaient hébergés.
Beaucoup.
Beaucoup. Et vous entretenez toujours cet héritage? Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça?
Est-ce qu'on peut venir chez vous une semaine ou deux? C'est ça la sous-question.
Surtout qu'en ce moment, c'est en travaux. Il y a 10 cm de poussière partout. Donc
si on peut
passer
un coup de balai.
On peut se mettre du plâtre dans les poumons.
C'est un terreau extraordinaire. Donc, voilà, comment vous entretenez?
Il y avait toujours beaucoup de monde. Et il y a toujours beaucoup de monde chez moi aussi. Parce que je me souviens même quelqu'un m'avait dit, un petit peu en se moquant de moi, ah, avec ton appartement où t'as élevé tes 3 gosses, maintenant qu'ils sont partis, ça va... tu vas être bien toute seule là-dedans. Il est trop grand pour toi.
La méchanceté des gens.
La jalousie.
Mais je veux dire que j'ai pas un instant de... J'en ai marre, quoi. Il y a tellement de monde chez moi, c'est dément, quoi. Mais voilà, mais ça doit être héréditaire.
Oui, vous avez gardé ce sens de l'accueil et du débat. Ça débat beaucoup chez vous, donc quand il y a des gens qui passent.
Ça bat pas, hein, mais non, ça non, débat.
Ça débat énormément. Et puis il y a d'autres aspects dans vos mémoires où vous racontez, alors moi ça m'a surpris, je connaissais pas l'histoire, La Belle Verte, moi je pensais que c'était un succès... On l'associe tellement à un succès. Et oui, en fait, c'en est un, mais c'est un film avec qui a une histoire avec le temps.
15 ans après,
ouais,
oui.
Parce qu'au départ, c'est un flop.
Ah oui, un gros flop, oui. Le film est mort à 9h10, on m'a dit ça. Le film est mort.
10 minutes après sa sortie, sa première.
Ah oui, c'est comme ça qu'on juge les films maintenant. Et puis, il y a plein de moments. Hein,
c'est un gain de temps, hein, ça, Colline. Hein, 10
ça
minutes.
Quoi
pour 3 ans de travail, 10 minutes. Juger en 10 minutes, c'est un gain de temps.
Oui, c'est un gain de temps. Mais bon... En même temps, moi, je passais déjà à autre chose. Et puis, un film, c'est comme toutes les œuvres d'art, hein, on les lance dans le grand monde. C'est comme les gosses aussi, d'ailleurs. Et puis ils grandissent comme ils veulent et comme ils peuvent. Et c'est plus à moi de décider si ça va être vu, revu ou pas. Donc, ils m'ont dit ça. Bon, j'ai dit, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Et puis, ça s'est complètement infirmé avec le temps. Parce que c'est simplement que c'était un peu en avance, même... Pas mal en avance.
Pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est rempli de préoccupations écologiques qui aujourd'hui sont... Moi, je l'ai revu il y a 2 ans.
C'est une utopie que vous proposez.
Ça tape hyper dans l'air du temps d'aujourd'hui.
De maintenant.
Ouais. Ouais. Et donc, ceux qui étaient déjà un peu au fait, comme vous, de toutes ces choses-là, finalement, se le sont passés. Et c'est un film qui a fonctionné avec le bouche à oreille, qui est devenu culte, en fait.
Oui, il y a des millions de téléchargements dans toutes les langues et tout ça.
Avec des sous-titres en portugais, en russe,
oui,
piratés.
Oui,
vous
en
foutez.
Japonais, enfin, tout. Mais c'est bien, non? Enfin, oui.
Vous avez dit que vous en foutez parce que vous avez dit que vous avez écouté Rire et Chanson en Italie et que le...
Ah oui, alors ça c'était drôle. J'étais dans un bus et j'allais à Venise chez moi. Puis il y a tout d'un coup j'entends. Et allez, ringraziato le vacche! Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais ce texte. Tu les as remerciés, les vaches. Tu leur as dit merci aux vaches. Et puis ça continuait. Et en fait, c'était la grande tirade de Vincent Lindon à Francis Perrin, quand il lui dit connard à cause de son rétroviseur. c'était sur Rire et Chanson, italien, quoi. Évidemment, sans aucun droit d'auteur, mais à ce stade-là, franchement, les droits d'auteur, je m'en fiche.
C'était Ilga del Male.
Colin Serreau, vous avez une petite...
Oui, sur votre rapport à vous, parce que effectivement, les autobiographies, en général, les gens mettent plein de photos d'eux à toutes les époques, parlent beaucoup d'eux, de leurs anecdotes. Vous parlez des gens qui vous ont précédé, des gens qui vous ont inspiré. Votre travail est au milieu, mais vous parlez pas mal de Freud. Alors, votre rapport à vous, Colin Serreau, quel est-il avec vous-même?
C'est une question trapenard.
Oui, c'est une question trapenard.
Ah, avec moi-même.
Oui.
Écoutez, je suis d'origine parpaillote, donc on ne parle pas de soi.
C'est quoi parpaillote?
Parpaillote, c'est les protestants.
Ah.
Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme les papillons, parce que dans la nuit, ils allaient dans leur culte avec des petites lumières et c'était comme des papillons dans la montagne. On les appelle les parpaillots à cause de ça. J'aime pas trop. Déjà, c'est un énorme effort que de parler de ma famille. Énorme. Et donc, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Non, je voulais savoir pourquoi vous n'étiez pas mis en avant, mais effectivement, moi, j'avais un peu la réponse. En lisant ça, on vous connaît mieux, même si vous ne vous dénudez pas.
Et on ne s'ennuyait pas dans votre famille, on va avoir l'occasion d'en reparler. On ne s'ennuyait pas, du coup, on ne s'ennuie pas en lisant le bouquin, c'est vrai. Colin Serreau, hashtag Colin Serreau, c'est le titre paru chez Actes Sud. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, dites donc. J'espère que vous êtes contente, parce que nous, on est très contents.
Moi aussi, je suis contente.
Il y a Hippolyte Girardot, Djoubaka pour la musique. Djoubaka, vous nous avez programmé, là, on entend Durham Jones and the Indications.
Ça va être
Smile.
Chouette, ça.
Yeah.
Smile. Ask me how I'm doing. Smile and say just fine. Brother, what I've been doing to pass the time. I'll lay awake at night, falling up in his bed. What wants a home in my lonely prison cell? Try to keep my tears from. Sorry, but the guilt that I can't stand. Upon your chest, your arms are folded, with the bottle in your hand. The devil makes his mark, the needle takes his sword. I told you that.
Two.
écouter France Inter ou quoi? Il est 17h23. Il y a une parpaillotte avec nous, c'est Colline Serrault.
Youpi.
Colline Serrault avec nous et pour l'entourer.
Eh bien, trois hommes. Nous avons Djoubaka, Guillaume Meurice et notre ami Pauline Girardot.
Et l'information, bien sûr.
Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Le journal de presque 17h17.
Je sais pas nager, je peux te voir.
Et on commence par les titres.
En ce 11 novembre, on rend hommage à tous les poilus.
Et oui, une pensée pour Pablo Mira, bien évidemment.
En Espagne, les socialistes arrivent en tête des élections législatives.
Pas de chance pour Manuel Valls, il était dans le bon pays, mais plus dans le bon parti.
Oui, des brèves.
Pas d'armistice pour la guerre des brèves, bien évidemment. Une fois n'est pas coutume, une petite info astronomie.
Oui, puisque cet après-midi, Mercure est discrètement passé devant le Soleil.
Mercure qui est pudique, alors que ce matin, sous l'œil des caméras de télévision, Jupiter est passé devant la flamme du soldat inconnu, on l'a bien vu.
Justement, pour ces commémorations du 11 novembre, Emmanuel Macron a ravivé cette flamme du soldat inconnu.
Oui, ça change de ces dernières semaines où sa politique en matière d'immigration a plutôt ravivé la flamme du Rassemblement National.
Passons à ce terrible fait divers.
Et oui, arrêté avec deux bras de femme dans son sac à dos à Saint-Pétersbourg, l'historien russe Oleg Sokolov, 63 ans, a avoué avoir tué et démembré sa compagne, une ancienne étudiante de 24 ans.
Oui, spécialiste de Napoléon, Oleg Sokolov était professeur à l'école de Marion Maréchal Le Pen, dont il vient d'être exclu.
Et comme quoi, hein, quand les étudiants de l'école de Marion Maréchal, ils disent oui, mais non, mais ça coûte un bras. Bah ici, ça en a coûté deux. Donc, voilà.
Elle doit être bien ennuyée, Marion Maréchal Le Pen, maintenant. Qui va assurer les cours?
Oui, surtout que Nordal Lelandais et Jonathan Daval ne sont plus disponibles non plus.
C'est terrible. International, à présent, l'Iran a annoncé avoir découvert une nouvelle immense réserve de pétrole. Mais pourquoi?
Dites pas trop fort, si Donald Trump la prend, on est bon pour une troisième guerre mondiale.
Ah d'accord, d'accord, très bien. La Turquie, commence à renvoyer dans leur pays d'origine les djihadistes étrangers du groupe État islamique, dont 11 djihadistes français.
Et c'est là qu'on voit bien la différence entre la Turquie et Thomas Cook, hein, qui elle au moins assure le retour. Et ça c'est bien.
Sport.
Sur Twitter, Ségolène Royal a salué la victoire de l'équipe féminine de tennis en Fed Cup, mais elle a regretté que la finale ne soit pas retransmise en prime time sur les médias français.
Sauf que la finale a eu lieu en Australie, voilà. Et pour qu'elle soit en prime time, il aurait fallu que le match soit joué à 3h30 du matin à Perth.
Voilà, en gros, la compétition avait lieu dans le sud, mais Ségolène Royal est toujours à l'ouest.
Météo, parce qu'un pic de froid va s'abattre sur la France à partir de jeudi.
Oui, et dans le même temps, un pic de A. Ben, vous voyez, quand on vous dit que le réchauffement climatique, c'est n'importe quoi, va s'abattre sur le plateau de Pascal Proulx.
Le cow-boy de Marlboro est décédé à 90 ans, sans avoir jamais fumé.
Putain, l'arnaque.
Comment ça, l'arnaque?
Bah, ne pas fumer tue aussi, ah, apparemment. Fou, donc,
Des brèves.
Et des brèves, oui. L'ex-femme d'un milliardaire espérait 5,8 milliards pour son divorce, mais elle n'a obtenu que 75 millions. Résultat, dit-elle, je dois vivre dans la pauvreté.
Ah oui.
Bonne nouvelle quand même, 75 millions, c'est 50 000 fois le SMIC, hein, suffisamment pour divorcer.
Et la dernière?
Et la dernière, haut de scène de points, un maire s'attaque lui-même en justice et gagne le jackpot. Peut-être une piste pour Patrick Balkany et sa caution.
Merci Alex Vizorek.
Mais de rien.
17h26, hashtag Colline Serrault. C'est le livre paru aux éditions Actes Sud, on va avoir l'occasion d'y revenir. On va aborder avec vous ce premier thème. En choisissant pour titre de son film J'accuse, Roman Polanski ne cherchait-il pas à renvoyer la vérité au fond du puits avant sa révérence pour se blanchir devant l'histoire? C'est par cette question que Valentine Monnier entame sa tribune où elle raconte avoir été violée par le réalisateur en 1975 lorsqu'elle avait 18 ans. Le Parisien publie également une enquête dont les témoignages soutiennent cette version de Valentine Monnier. Chaque témoignage fait progresser la cause des femmes, bien entendu, même dans les autres contrées.
Bonsoir. Une centaine de gonzesses de la société civile groenlandaise demandent à notre président de lancer un plan d'urgence contre le harcèlement des gonzesses. Signé par des grandes signatures de journaux de gonzesses, de films de gonzesses et de bouquins de gonzesses, cet appel exige un doublement des subventions allouées aux associations de défense des gonzesses. Ce texte adressé au président entend dénoncer les agressions dont sont victimes quotidiennement les gonzesses. Intitulé « Président, êtes-vous avec nous ?», cet appel a fait du bien à toutes les gonzesses. N'oublions pas qu'un habitant du Groland sur deux est une gonzesse.
C'était bien sûr Groland. Voilà. Alors, cette femme photographe, Valentine Monnier, a fait quelques apparitions au cinéma dans les années 80 et sont souvent citées dans les articles qui la concernent. « Trois hommes et un couffin » dans lequel elle a fait une apparition. Donc, Colline Serrault, il nous a apparu évident de vous demander si vous aviez quelque chose à dire, une réaction, quelque chose de peut-être personnel ou...
Oui. Mais d'abord Valentine, je l'ai pas beaucoup connue. Elle avait une petite scène dans la scène du dîner. Mm-hmm. C'était quelqu'un d'extrêmement raffiné. Elle était très 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 belle, mais d'une beauté fracassante. Elle était adorable. Elle a tourné ce petit rôle comme ça. Et ensuite, je suis allée voir son site, et c'est une très bonne photographe. C'est vraiment une artiste. Elle est mariée, mère d'enfant. D'abord, je voudrais avant. Bon, c'est super, on rigole tout ça, mais je voudrais quand même avant tout, même on ne sait pas. C'est prescrit, hein, ce qu'elle elle porte pas plainte, donc la justice ne se prononcera pas sur cette histoire. Mais je voudrais avoir juste un mot de compassion, parce qu'on rigole, tout ça, mais pour les gens qui vivent ces trucs-là, parce qu'ils le portent ensuite toute leur vie, parce qu'il y a eu 137 femmes mortes depuis le début de l'année, et que, je sais pas, Dieu sait si l'humour c'est mon truc, mais là, je sais pas. J'ai plutôt du chagrin pour elles. Voilà. Ah, maintenant, quant à la personne qui l'a agressée, j'en parlerai jeudi, parce qu'on a une réunion à l'Académie des Beaux-Arts dont je fais partie, et dont il fait partie. Et on va se concerter, savoir quelle est la position qu'on va avoir. C'est vrai que ce film est un peu un plaidoyer pro domo pour lui, pour dire je ne suis pas coupable et j'ai été harcelé par la justice. C'est pas du tout le cas de Dreyfus. Dreyfus a été, à une époque où l'antisémitisme était violent, a été vraiment massacré et par une société pourrie. Et là, c'est plutôt une société pourrie qui massacre les femmes. C'est un petit peu l'inverse. On est quand même dans un patriarcat triomphant. Il y a énormément de gens qui meurent, il y a énormément de gens qui subissent des violences. Il y a un moment, je ne sais pas si j'ai tellement envie de rigoler là-dessus. En tout cas, j'ai envie, parce que ça, jamais personne ne le dit, d'avoir un mot de compassion pour les gens qui subissent des violences.
Colline Serrault, mettons bien les choses au clair. Nous non plus, on rigole pas de ces sujets. On les décale dans un son, mais l'intention n'est jamais de rigoler avec ces sujets.
Sauf Alex, parfois. Jamais on lui tape sur les doigts.
C'est une manière de, voilà, de décaler le sujet dans un son pour ensuite aborder sérieusement la question. Autre question, Jean Dujardin, il annule sa venue au journal de TF1. Donc finalement, il annule sa promo. Promo, parce que s'il annule le 20h de TF1, il va pas revenir parler ailleurs. Et il semble être et à la fois très embêté et agacé par cette question. Or, il endosse quand même le premier rôle dans ce film. Jean Dujardin qui annule. Enfin, est-ce qu'on doit assumer totalement de jouer dans ce film? C'est délicat comme question.
Polanski, quand on vous propose le premier rôle dans un film de Polanski, c'est un type qui a un énorme talent. Il a fait des très grands films. Et quand on, c'est difficile pour un acteur comme Dujardin qui a besoin de faire des beaux films, de refuser.
Mais est-ce qu'il faut assumer jusqu'au bout la promotion? Ça fait partie d'endosser.
Il y a des moments dans la société, dans la vie, comme il y a eu après la guerre ou pendant la guerre. Il y a des moments où il faut prendre position. Il y a des moments où il faut dire, j'ai le courage de dire que je suis pas d'accord, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile parce que beaucoup de gens vous tombent dessus. Moi, je suis issu d'une famille où tout le monde était résistant. Dans des moments où personne n'était résistant. Ils ont lutté pour la libération de l'Algérie à un moment où on allait en prison quand on faisait ça. Et ma mère était signataire du manifeste des 121. Mon père a monté Katebiassine en pleine guerre. Il a dû se planquer en Belgique parce qu'il était menacé par l'Ouest. Et puis après, quand tout s'est calmé, on a vu que c'était juste que l'Algérie demande sa libération et que toute la décolonisation, c'était juste. La société française n'était pas prête à l'entendre. Alors, mais il y a des gens qui ont pris position. Il y a des gens qui ont été collabos jusqu'à 44, quoi. Hein. Puis en 45, pouf, toute la France était tout d'un coup résistante. C'est pas grave. Chacun évolue, on évolue. Sur la question des violences, sur la question de la manière dont on traite les femmes dans cette société, dans toutes les sociétés, hein, c'est pas que la France. Il y a un moment où il va falloir prendre position et ça sera peut-être pas forcément majoritaire. Et puis surtout, ce qui serait important, c'est que les hommes prennent position. Parce que nous, on est d'accord, nous, hein, mais on lutte pas pour notre boutique. C'est pas une boutique, les femmes, c'est la moitié du monde. Et il y a des mecs formidables. Il y a un type qui s'appelle Yvan Jablonka, qui a écrit Des hommes justes, qui est un livre magnifique qui repense la masculinité. Excusez-moi, je pose par terre, je fais le trip. mais donc, il y a des gens qui réfléchissent à ça, il y a des gens qui il y a toute une jeunesse qui se reconnaît pas du tout dans ces comportements pourris, et c'est maintenant il va falloir faire des choix, et c'est pas moi qui vais les faire, c'est vous, c'est toute la société qui doit les faire. Et bon, moi il y a longtemps que j'ai dit mon opinion là-dessus, mais je pose la question: si le féminisme c'est être pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais comment peut-on ne pas être féministe là maintenant là? Mais qui est-ce qui est pas féministe là? Mais qui lève la main, quoi?
Colline Serrault,
avec nous.
Bon là c'est de la radio mais personne n'a levé la main, je préviens les auditeurs parce qu'il peut y avoir un petit doute. Hippolyte s'est recoiffé juste comme ça. Mais pas...
Et c'est un sujet que nous traitons très régulièrement, une à deux fois par semaine dans cette émission, donc bien qu'on essaye souvent aussi de décaler les choses et d'apporter un petit sourire pour détendre l'atmosphère, oui. Sachez que ça ne fait aucun doute que c'est un sujet sur lequel on enfonce le clou parce que, comme le dit une sociologue que j'aime beaucoup, s'appelle Irène Théry, c'est le témoignage qui fait avancer la société. Et donc espérons que d'autres prennent le relais. Ici, on l'a bien entendu, c'était les hommes aussi qui prenaient le relais. Ce serait merveilleux dans cette révolution qui est en cours.
On est plutôt volontaire.
Vous, oui, vous, oui, mais pas tout le monde.
C'est vous le chef.
Pas tout le monde.
C'est quand même un beau pas en avant. Hein. Il y a 10 ans, c'est moi qui l'aurais dirigé cette émission.
Joubaka, hein. J'ai l'impression que le groupe dont vous allez nous parler va continuer de faire avancer ces choses-là dans le bon sens.
Ça va changer le patriarcat, en tout cas, oui. Parce que vous étiez à la recherche de chanteurs, de chanteuses vraiment engagées, en fait, qui mettent le doigt là où ça fait mal. Bah, rassurez-vous, la recherche est finie. Elles sont là. Leur lyrisme va sans doute peser lourd dans les prochaines élections. Mesdames et messieurs, voici les Vulves Assassines, dont le premier album Godzilla 3000 vient de sortir. DJ Conan, MC Vieillard et leurs compères déversent dans chacune de leurs chansons des vérités qui ont le pouvoir, comme disait Victor Hugo, et ça m'a été confirmé, d'être un bruit qui pense. Et donc, chez les Vulves Assassines, toute vérité cachée est bonne à dire. Enfin, la chanson hexagonale peut s'orgueillir d'avoir un titre qui dénonce le passé nazi de Horst Tapper, alias l'inspecteur d'Eric qui a trompé tant de nos grands-mères en se faisant passer pour un héros tout en les hypnotisant de son charme par télé interposé. Enfin, elle dénonce aussi la dictature du bien-être de ce satané développement personnel alors que l'amour y suffit. Enfin, elles hurlent la paranoïa qui s'empare de nous dès qu'un anglais toxicomane et sans doute légèrement étourdi oublie sa valise noire de la taille d'une bombe dans le métro. Et enfin, elle chante des lendemains de sexe où tout le monde serait enfin d'accord grâce à un tube interplanétaire « J'aime la bite, mais pas la tienne ». Oui, le disque Godzilla 3000 des Vulves Assassines est plus que recommandable. Leur musique, vous allez l'entendre, est un punk rap de l'espace qu'on écoute avec bonheur en hurlant sous la lune. Mais sachez-le, leur croisade cosmique ne s'arrête pas là. Car il faudra compter avec les Vulves Assassines lors des prochaines élections présidentielles, celles de 2022. Et du programme, et des nouvelles idées, là il y en a. Là pour commencer, nous allons donner un nouveau nom à notre vieille France. Maintenant ça va s'appeler le pays aéré. La monnaie sera abolie, remplacée par un système d'échange non plus en fonction de la valeur des choses mais de nos besoins. Et les sous d'avant prendront le nom poétique d'anus, c'est-à-dire qu'on pourra trouver en leur sang toutes les anciennes pièces afin de se les coincer dans les orbites pour en faire des lunettes rigolotes. Le libéralisme sera aboli mais pas anéanti, car les capitalistes pourront s'organiser en village indépendant dans le Larzac. Ils seront ainsi libres de s'exploiter entre eux, mais sans nous faire de mal. Hein ? Et la mode, Alex, Guillaume, sera remplacée par la notion d'élégance. Vous pouvez y arriver. Et sachez que chacune et chacun d'entre nous peut devenir un rayon de soleil pour l'autre. Les discours officiels, ça va être bien. Ils seront proposés sous forme de karaoké sur la chaîne nationale. Et chacun pourra créer son propre drapeau. Ainsi, fini les jalousies stériles du 11 novembre, qu'on fête encore aujourd'hui, concernant le programme médiatique, le peuple et ses particularités, seront mises en avant avec des accents mensuels, qui seront définis par le ministère des mots et des accents. Et puis il y aura des cours tutoriels diffusés sur la chaîne nationale qui permettront de s'approprier l'accent du mois. Les journaux télévisés seront présentés avec l'accent du moment. Voici, mesdames, messieurs, un programme qui sans doute nous sauvera des éternelles mêmes questions qui envahissent nos médias à chaque élection. Et dans ce flot de bonheur et de nouvelles idées, j'aimerais annoncer aux chômeuses et chômeurs, souvent pointés du doigt, et qui auront encore moins prochainement qu'ils ne peuvent en avoir dans leur poche, qu'ils peuvent enfin se réjouir. Ils ont une chanson, c'est-à-dire un hymne, qui leur est consacré et qui leur permettra de communier ensemble. Chers amis, chers copains, disons-le vite, mais disons-le bien, vulvons, vulvons, tous ensemble.
Crevé.
Assassine, Pierre Gattaz suce ton Smith, génial, on adore.
On continuera à vous en parler.
Merci Chewbacca, merci beaucoup. Chewbacca avec nous, vous écoutez Par Jupiter, France Inter, c'est Colline Serreau notre invitée. Hashtag Colline Serreau, son livre, paru aux éditions Actes Sud, où elle raconte sa famille, ceux qui l'ont précédée, des fragments de textes, de dialogues cultes, des pensées aussi, il y a une partie essai, on va y revenir tout à l'heure, Colline Serreau. En attendant, il y a un individu dans ce studio, je pense qu'il y a son petit succès dans votre famille, si j'ai bien compris, Colline.
C'est culte chez nous.
C'est vrai. Non, il est culte, lui.
Ah, oui,
oh mon Dieu. Oh la jeunesse d'aujourd'hui.
Mon fils est le petit, là.
Encore une famille de gauchiasses, quoi. Bon.
Allez, Guillaume Meurice.
Allez, je vais vous parler pognon. Aujourd'hui, pognon, pognon. Donc, je suis retourné à Levallois, hein, puisque c'est la spécialité. Si je voulais parler crêpes, j'irai en Bretagne. Si je voulais parler pédocriminalité, j'irai au Festival de Cannes. C'est normal. Chacun son truc. Donc, pognon à Levallois, parce que vous avez tous entendu qu'une cagnotte avait été lancée pour sortir Patoche Balkany de prison. D'ailleurs, est-ce que vous avez donné ou pas? Qui a donné?
Voilà, le virement est en cours.
Ouais, ouais. Ah, quand c'est pour défendre Mandela, vous êtes tous là à couiner. Hein, quand c'est de la vraie injustice, il n'y a plus personne. Putain. Bon, en revanche, vous avez sans doute moins entendu parler d'un organisme qui s'appelle l'Observatoire international des prisons et qui a perdu près de 70% de subventions ces dernières années et qui est donc menacé de disparaître. C'est un organisme qui était justement chargé de surveiller les conditions de détention. Donc, deux bonnes raisons d'aller à la rencontre des habitants de Levallois pour récupérer un petit peu de pognon pour au moins une des deux cagnottes, hein, on verra. Et donc, deux bonnes raisons d'aller voir les soutiens à Patoche.
C'est quelqu'un de brillant, qui a plein d'idées pour la ville. C'est quelqu'un de fantastique. J'espère que toutes les villes de France aient un maire comme Patrick Balkany. Et si jamais y a des reproches qui lui sont faits, c'est parce que la justice est complètement pourrie. On a une France qui est complètement désossée, qui est complètement pourri. Voilà, moi, ce que je pense, monsieur. Comme ça, au moins, vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est un ami.
Vous, hein, êtes fan, vous êtes fan de Patrick Balkany?
Oui.
Allez, là, on a affaire vraiment à un fondamentaliste. Hein. C'est quelqu'un qui a lu l'évangile selon sa Patoche et qui l'applique à la lettre. Il a raison, c'est un très beau texte avec de belles citations, notamment « Rend à Patoche ce qui appartient à Patoche et au compte bancaire de la mairie ». C'est vraiment un très, très beau texte. Intéressant aussi ce monsieur qui en a donc gros contre les juges.
Tous ces vampires et ces salopards donc, que l'on a chez nous.
Les juges, voilà. Vous pensez que c'est des vampires et des salopards?
Les juges sont des pourris, oui, donc des pourris.
Et est-ce vraiment que vous allez donner à la cagnotte de soutien?
Bien sûr, ça, je vous dis, c'est un ami.
Vous allez donner combien sans
pas.
Indiscrétion?
Ça vous regarde pas.
Ouais, toujours beaucoup de pudeur avec l'argent quand même du côté de Levallois. Hein, on parle peu d'argent là-bas parce qu'on sait que la vraie richesse, elle est intérieure.
Bien sûr.
Eh bien, bien sûr, à Levallois, il n'y a pas de carte bleue, on paye avec son cœur. C'est pour ça que les impôts, ils ont du mal avec la notion d'impôt parce que finalement, ils n'arrivent pas à payer. Voilà, c'est une autre mentalité, mais puisqu'on parle d'argent, est-ce que ce monsieur va donner aussi à l'Observatoire international des prisons ?
Jamais de la vie, parce que des gens comme moi payent énormément d'impôts, on est sans arrêt pressuré, sans arrêt. Moi, ma seule issue, c'est de me tirer de ce pays de merde.
Ah, bah c'est dommage. C'est dommage, il représentait si bien l'esprit français, je trouve, ce monsieur. Bon, en plus, l'avenir est assuré en France. On a une jeunesse qui est là et qui est prête. J'ai même rencontré des enfants à Levallois, notamment un qui rêve d'être policier. Pourquoi ?
Je vais être policier pour arrêter les personnes qui font des choses qui sont pas autorisées par la loi.
Et alors, si un jour on te demande d'aller arrêter Isabelle ou Patrick Balkany ?
Je ne le ferai pas.
Mais tu seras obligé ?
On n'est pas obligé dans la vie, on est obligé de rien.
Si c'est ton rôle de policier ?
Je le ferai pas, mon rôle de policier.
Tu démissionnerais ?
Si c'est pour arrêter Patrick et Isabelle, oui.
Voilà, tout simplement. Hein, c'est un bon exemple pour tous les policiers qui nous écoutent. Voilà, un petit peu de désobéissance civile. Alors, je vais être honnête, cet enfant, je ne l'ai pas rencontré n'importe où. Je l'ai rencontré à la permanence de Patrick Balkany, là où la résistance s'organise, là où la SPB, l'association de soutien à Patrick Balkany, a été créée pour récolter des fonds. Et j'ai même rencontré le président. On le surnomme Titi. Alors, Titi, cette cagnotte ?
Pour nous, c'est pas une cagnotte.
Alors qu'est-ce que c'est exactement ?
Les gens font un don, mais nous on n'appelle pas ça une cagnotte, on n'aime pas ce mot cagnotte.
Donc c'est quand même un endroit où les gens donnent de l'argent.
Voilà, oui.
Parce que c'est pas la définition d'une cagnotte.
Mais non, moi j'aime pas ce mot cagnotte. Comme quelqu'un a dit, Balkaniton, c'est pas un Balkaniton.
Ah non, et ça je crois que c'est vous, Alex.
Ah oui,
oui. Dans le journal de 17h17, vous avez dit ça, c'est dommage, ça décrédibilise complètement le reste du journal. Hein, c'est ballot, les gens vont plus vous faire confiance au niveau de l'information. Heureusement qu'il nous reste Léa Salamé et ses interviews punchy et sans vraies questions. Et sans concession. Pardon, excusez-moi, lapsus. Alors, la question c'est, est-ce que Titi, il a donné des sous ?
J'ai pas encore donné.
Vous avez pas donné encore ?
Non.
Vous allez donner ?
Ah bah absolument. Quand même, mon maire, je l'adore, moi.
C'est indiscret de vous demander combien ?
Non. Je veux dire, là, on ne donne aucun chiffre.
Aucun chiffre, ouais, c'est normal, c'est normal. Patrick non plus, il ne donnait pas les chiffres. Il disait, non, mais laissez la compta de la mairie, je vais m'en occuper. Vous inquiétez pas, je vais me démerder. Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien. C'est vrai que les chiffres, ça donne mal à la tête. Et puisqu'on parle de maladie, à la permanence, j'ai évidemment croisé Isabelle Balkany, qui était là. Alors, elle soutient son mari. Bon, oui. Ça va pas vous surprendre. Mais est-ce qu'elle va donner pour l'Observatoire international des prisons ? Alors, figurez-vous, elle savait pas ce que c'était. Donc, je lui ai expliqué. Et puis, du coup.
Si je peux, je donnerai parce que moi, je voudrais vous dire quelque chose parce que j'ai découvert un univers, évidemment, que je connaissais pas. Le travail insensé des agents pénitentiaires.
On peut retenir quand même que vous soutenez l'Observatoire international des prisons.
Oui, alors je le soutiens. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne savais pas il y a 10 secondes ce que c'était. Donc je vais regarder ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais voilà.
Bon, voilà. Alors faites comme Isabelle. Allez voir sur le site de l'Observatoire international des prisons. Moi, en attendant, je m'engage à verser le cachet de cette chronique à l'Observatoire des prisons. Vous pouvez retrouver leur cagnotte à eux sur www.oip.org. pour que les autres détenus bénéficient des mêmes conditions de détention que Patoche, qu'on embrasse d'ailleurs, Patoche, cœur avec des fonds publics.
Merci Guillaume Meurice.
Et donc elle va bien Isabelle ? Isabelle va mieux. Hein. Je ne dirais pas qu'elle est au top du top, mais
Elle va bien, elle peut le rejoindre. C'était ça l'idée.
Elle est. C'était
une vraie question.
Après, il va y avoir une cagnotte pour Isa. Ça va être compliqué.
En tout cas, elle est là tous les dimanches. Elle est à la permanence. Elle fait le marché si vous voulez la croiser.
Ça va. 17h47 sur France Inter. On préfère croiser Colline Serrault, avec qui on passe un excellent moment. Et on va aborder cet autre sujet. L'industrie audiovisuelle pollue énormément et les tournages de cinéma représente 25% de cette pollution. Les éclairages, les décors. Et même dans un récent James Bond, pour 30 millions de bagnoles envoyées à la casse, dont 7 Aston Martin qui avaient été spécialement fabriquées pour le film. Un nouveau métier est apparu, le chargé d'éco-production. S'assure du recyclage des décors, des gourdes pour les comédiens et de la cantine végétarienne. Ah, je vois les regards d'Hippolyte Girardot, la cantine de tournage.
Greenwashing.
Je voudrais un melon au Porto. Après, je prends un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, une écrevisse à la nage.
À la place du foie gras, monsieur ?
Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non. Et puis, alors, je voudrais aussi un rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, chou ?
Très bien, monsieur, oui.
Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein ?
Bien, monsieur.
Merci. Si vous voulez faire vite quand même, je suis assez pressée.
Coluche dans l'aile ou la cuisse, film de Claude Zidi. Le Huffington Post publie un article à l'occasion du tournage d'une série de Canal+, intitulée « L'effondrement », et qui imagine donc l'effondrement du changement climatique. Le tournage est le plus éco-responsable possible, bien sûr. Enfin, bien sûr. Colin Serrault, vous qui avez ces convictions-là chevillées au corps depuis que vous êtes né, déjà dans vos tournages, et notamment la Belle Verte, vous avez mis en place ces pratiques-là, j'imagine.
Ah non, pas du tout. Non, pas,
c'était, ah bon
pas, non, c'était pas du tout encore en question. Déjà, fallait que je me bagarre avec les directeurs de production pour qu'ils acceptent de faire ce que je voulais faire dans le film. Déjà, juste le faire. Parce qu'ils pensaient que j'étais complètement cinglée. Hein, ouais. Ce qui était peut-être le cas, d'ailleurs. Mais donc, l'histoire d'éco-responsable, ils en étaient très loin.
D'accord.
Et moi, je me battais pour faire mon film.
Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un métier sur les tournages qui accepte de jouer ce jeu-là. Il y a un label, d'ailleurs, auquel souscrivent des sociétés de production, des réalisateurs, etc. Je prends l'exemple de cette série. L'article nous raconte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur cette série au niveau de la cantine, de chasser le plastique, de recycler les décors, etc. Mais il y a une scène qui nécessite de faire décoller 5 fois un avion. Donc, on se demande, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il faut penser à est-ce qu'on peut brider la narration si on veut être complètement cohérent avec ça ou pas?
Oui, on peut faire des très très gros plans qui suivent des yeux, un avion qui décolle 5 fois.
Ou des maquettes.
Mais
d'abord, on peut faire des maquettes, on peut faire de, maintenant, on peut tout fabriquer par ordinateur. C'est vraiment, non, c'est une blague.
Mais ça, ce serait dommage.
J'avoue quand même humblement.
Franchement, moi j'ai été voir Midway. Il y a la bataille du Pacifique. Il y a très peu d'avions vrais qui sont filmés. Ouais. Et ça marche.
Donc voilà. On pourrait alors.
Bah oui, bien
on
sûr.
Pourrait
on
déjà. Enfin, le premier geste éco-responsable dans un scénario, ça voudrait dire de penser à ce qui ne serait pas.
Au début de la crise, il y a un train qui démarre et Vincent Lindon qui court après. On a quand même refait 7 fois la prise.
Ah bah super, bah bravo.
Non, mais c'était les machinistes qui poussaient le train. C'est pas pareil.
C'est vrai. Alors, les cantines sont végétariennes. Mais alors, on apprend que chez les techniciens, on se passe du saucisson sous le manteau. On est arrivé à une certaine radicalité sur les tournages, non?
Ah oui, ça, le sacro-saint bidochard et...
Ah oui,
et saucissard.
Donc on en est là à se passer le saucisson sous le manteau sur les tournages.
Sans compter l'alcool, sans compter. Ouais, oui, ouais. Ben ça. Ah, c'est vrai que moi je préfère les journées 12h30, 18h30 ou 19h30 plutôt que celles où on a un break au milieu parce qu'on n'a pas l'équipe. Aussi
dynamique.
Ouais, non, après leur part en général.
C'est rigolo maintenant quand on tourne un film, on vous demande vos mensurations pour avoir la taille de vos vêtements et vos intolérances alimentaires pour savoir si vous pouvez être dans l'équipe sans gluten, dans l'équipe.
C'est chic,
chic, le cinéma, c'est vraiment trop chic.
Beaucoup plus chic que la radio.
Oh là 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 là. Je vous raconte pas la cantine un jour férié. Heureusement qu'elle était déjà là déjà. 17h51, Hippolyte Girardot, vous êtes là avec Colin Serrault.
Bah oui, je suis content d'être là parce que moi j'ai reçu une lettre samedi. Poignante, étonnante, déchirante, quoi. Une lettre écrite, paraît-il, ouvrez les guillemets, d'un pays qui n'existe pas. Allez comprendre. Je vais vous la lire. Mm-hmm. Camarade, je me retrouve toujours dans la même situation. Je suis humilié. Je connais pas d'autres mots pour dire ce que je ressens chaque jour. Mon épouse, ma patronne, les femmes dans la rue, je n'ai aucun répit. Même ma fille commence à me considérer comme me considère sa mère. Une chose, un objet, une sorte de nécessité embarrassante. Alors, des copains et moi, nous avons tenté de se réunir pour faire changer les choses. Mais la plupart de mes co-religionnaires n'osent pas. Hub d'Yvonne me dit qu'il n'y a aucun moyen de se libérer de sa situation maritale, la maison, la voiture ne lui appartenant pas. Rob de Charlotte me dit qu'il est tellement attaché aux enfants que son épouse saura très bien se mettre la juge dans la poche, obtenir la garde intégrale. Et ce pauvre Nico de Léa me dit, lui, c'est peut-être le pire, que finalement sa femme n'est pas si mal et que ça a été toujours comme ça. Et quand je lui demande d'où vient cette marque sur son poignet, il rabat son pull par-dessus. Et ce qui est terrible, c'est que je sais que sa mère la battait, il me l'a dit. Humilié, soumis, camarade, c'est quoi la prochaine étape? Quand la jeune présidente a été élue, j'ai eu l'espoir que les choses changent. Elle était jeune, sans passé, pleine d'espérance, elle avait même écrit un livre qui s'appelait « Révolution ». Moi et mes copains, on y croyait. Très vite, et probablement à cause de son époux, plus jeune qu'elle, elle a déclaré l'égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat. Je laissais traîner les journaux. Dans la cuisine, quand ma femme rentrait du boulot, je faisais semblant d'être absorbé par les articles. J'entendais se moquer de cette jeune présidente qui pensait changer ce qui est dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, je hais cette expression, depuis des millénaires. Mais j'y croyais. Quand j'ai vu cette productrice américaine vaciller, être emprisonnée, j'ai eu de l'espérance, je me suis dit, c'est mondial, c'est le plus grand changement que l'humanité n'a jamais vécu. Bientôt on pourra dire, feu la domination féminine. Tu parles. cette année, et elle n'est pas finie, je crains beaucoup la période des fêtes, 137 hommes sont morts. Morts ! Sous les coups de leurs femmes. Et personne ne bouge. Imaginez si c'était des femmes qui avaient été battues jusqu'au trépas. Ne croyez-vous pas que cette Assemblée nationale, majoritairement féminine, je le rappelle, ne se soit pas levée comme une seule femme pour déclarer ce drame cause nationale ? Oui, je suis dégoûté, camarade. Quand vous lirez cette lettre, j'aurai à ma façon fait la révolution promise et non avenue. J'ai envoyé mes enfants chez mon père, qui est aujourd'hui un retraité joyeux et veuf. Ceci explique en cela. Quand mon épouse rentrera à la maison tout à l'heure, l'homme qui sera en face d'elle ne sera plus soumis, humilié, bafoué, écrasé, mortifié, rabaissé, accablé. Non, je serai armé et je ferai feu. Bien à toi, camarade. Ah, alors j'ai compris effectivement ce qu'il voulait dire quand il disait que sa lettre venait d'un pays qui n'existe pas.
Hippolyte Girardot. Merci Hippolyte.
Mais de rien, c'est ma contribution.
Oui.
À la cause.
Colline Serrault, il y a un personnage singulier, attachant aussi dans ceux qui vous ont précédé dans votre livre. C'est votre grand-tante, je pense, qui en 1800, la sœur de votre grand-père. Qui dans les années 1890 vous expliquiez, elle a fait une licence de maths, donc elle trouverait pas à se marier. Vous l'appelez, on les appelait les bas bleus, c'est ça?
Oui, les bas bleus. Mmh. Oui. Les gens qui étaient, les filles qui étaient trop intelligentes ou qui avaient fait trop d'études, elles ne pouvaient pas se marier.
Et à la fin de sa vie, vous êtes allé la voir.
Ouais.
Ça que
elle
vous racontez.
Était super. Ouais.
C'est un personnage qui vous a marqué aussi, donc?
Pas non. J'y repense après et je me dis que. Il y a eu des vies qui ont semblé être gâchées au départ, et puis en fait, elle a eu beaucoup d'élèves qui l'adoraient, et elle écrivait un très très beau français. Je me souviens de ses lettres qui étaient magnifiques, une langue d'autrefois avec une élégance et un raffinement dans la manière de parler. Et oui, c'est pas un personnage principal, mais c'est
non, mais il fait partie de la galerie de portraits.
Oui, puis l'idée c'est regardons les gens. Pas avec un jugement à l'emporte-pièce, essayons de se mettre à leur place et parce qu'on peut rater des gens.
Colline Serrault, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord.
Et oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Alors écrire pour Colline Serrault, c'est pas évident. Alors on s'est inspiré un peu de Colline Serrault, on s'est dit, et si la crise avait lieu chez les Le Pen ? Alors, vous êtes Marine Le Pen, Charline et Marion Maréchal Le Pen, et Guillaume et Jean-Marie Le Pen. Et vous allez peut-être reconnaître un petit peu un film à vous.
Marion, une horrible nouvelle à t'annoncer.
Ah, ne me dis pas qu'Éric Zemmour est viré de CNews.
Pire, ta tante Marine a un amant arabe.
Quoi ? Mais Marine, mais t'es complètement dingue ou quoi ?
Ah, c'est moi qui dois dire. Ah bon. Alors écoute, Marion, tu arrêtes tout de suite. Et tu te tais et tu m'écoutes.
Tu veux que je me taise alors que tu mets en danger la crédibilité du parti ?
C'est quoi la crédibilité du parti ?
Écoutez-moi bien. Vos problèmes de crédibilité, vos problèmes d'honnêteté, je m'en fous, mais comme de l'an 40. Je m'en fous totalement.
On te parle pas des emplois fictifs, là.
Les emplois fictifs aussi, je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre.
Mais tu vas détruire toute une famille pour une vulgaire histoire de cul ?
Pourquoi vulgaire ?
Parce que ton amant se nourrit de loukoum.
Et quand ton chien a bouffé ma chatte, ça n'était pas vulgaire, peut-être ?
Tati Marine, mais dis-moi que je rêve, là.
Non, ma petite.
De toute façon, c'est une passade.
Jalouse.
Mais ça pourra pas durer.
Qui ça, ton grand-père ?
Oui, aussi.
Dites donc un peu de respect pour celui qui vous a fait. Hein.
Tati, tu imagines si tu es élue en 2022 ?
Mais c'est quoi ton problème ?
Tu imagines le cauchemar si la première dame, c'est un arabe ?
Ah ben, tu serais bien emmerdée, hein.
T'es consciente qu'il ferait installer des tapis partout à l'Élysée ?
Et alors ? T'as jamais essayé de baiser un peu sur un tapis moelleux ?
Mais c'est pas croyable, hein.
Tu devrais essayer, ça te détendrait.
Mais alors quoi, t'es plus raciste ?
Oh bah dis pas de bêtises, bien sûr que je suis raciste.
C'est même inscrit dans l'hygiène de la famille.
Mais alors pourquoi cet amant arabe ?
Simplement pour avoir beaucoup de plaisir.
Ouais, sans doute sur un tapis volant, vous envoyez en l'air.
Papy, t'es gentil, épargne-nous tes calembours foireux. Hein.
Bon, eh ben moi je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mon amoureux.
Ah, c'est vraiment pas une blague.
Est-ce que tu peux être crédule ? Mais c'est un sketch, Marion.
Oh, j'ai tellement eu peur d'avoir un tonton du bled.
Ça vous manque pas de jouer, Colline Serrault ? Je sais que vous aimez ça.
Oh, j'ai joué toute ma vie, ouais. Tout le temps, tous les soirs, tout ça. Je tournais la journée, le matin, c'était les gosses avec la musique, après je tournais, après je jouais au théâtre, après ça va, j'ai une vie bien... Des fois, je regarde en arrière, je me dis que je suis fatiguée pour moi-même.
Regardez pas, regardez
non,
devant.
Non, on n'est pas fatigué.
Non, j'ai une vie bien remplie, ça va.
En tout cas, c'est une partition musicale, ce texte, parce qu'on entend exactement les mêmes notes quand vous l'interprétez que Maria Pacôme. Oui. D'ailleurs, le texte figure dans ce livre, Colline Serrault, hashtag Colline Serrault, paru aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Colline Serrault.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Ainsi que tout le monde, Djoubaka. Merci, Pauline Girardot, Alex Guillaume. Demain, nous recevrons l'écrivain et scénariste belge, Thomas Gunzig.
Ils nous polluent, les belles.